Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'Assemblée nationale de la RDC est renouvelée à près de 80%. C'est l'un des enseignements que l'on tire des élections législatives du 20 décembre 2023, dont les résultats provisoires ont été publiés le 14 janvier. La coalition de l'Union sacrée du président élu Félix Antoine Tshisekedi est largement majoritaire avec plus de 400 députés. Tous les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, à l'exception de Jean-Pierre Bemba, sont élus députés nationaux. Par ailleurs, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est le premier parti politique de l'opposition en tête avec 18 députés. Dialogue entre Congolais de ce soir revient avec les acteurs politiques et de la société civile sur l'analyse de la nouvelle configuration politique au sein de l'Assemblée nationale. C'est donc l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons pour cette émission Dismas Kitenge, il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonsoir monsieur Dismas Kitenge.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi ainsi que mes co-débatteurs au courant de cette émission.
Gatien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de la ville de Bounia en Ituri. Il est cadre d'Ensemble pour la République, parti politique du candidat Moïse Katumbi. Bonsoir Gatien de Saint-Nicolas Irachan.
Bonsoir du matin, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les co-débatteurs.
Et Toumba Tchabola, député national de la législature 2018-2023 et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Il était chargé de la campagne du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, dans les territoires de Katanda, province du Kasaï oriental. Bonsoir, honorable Toumba Tchabola Bintou.
Bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir les co-débatteurs et ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kati.
Bienvenue une fois de plus à tout le monde dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, tous les membres du Présidium de l'Union sacrée, à l'exception de Jean-Pierre Bemba, sont élus députés nationaux. Il s'agit du président du Sénat, Bahati Lukwebo, celui de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, Vital Kamerhe, Augustin Kabuya, et du Premier ministre, Sam Malukonde. Plusieurs autres membres du gouvernement du Sénat et des institutions provinciales ont aussi rejoint l'Assemblée nationale renouvelée à près de 80%. Comment est donc récomposée cette chambre du Parlement? Quelle est la configuration de l'Assemblée nationale actuelle? Michel Kifindangori.
En analysant de manière croisée la nouvelle Assemblée nationale par rapport à celle de la législature écoulée, la chambre basse du Parlement vient d'être renouvelée à près de 80%. En effet, tous les sièges occupés autrefois par les députés du FCC qui n'ont pas participé au processus électoral ont été gagnés pour la plupart par des cadres de l'Union sacrée. Un peu plus de 20% seulement d'anciens députés ont conservé leur siège. À titre illustratif, au Sud Kivu, sur le 25 députés, 7 seulement ont été réélus. Au Kwilu, 9 députés sur 22 ont été réélus et à Kinshasa, 15 sur 55 députés. Parmi les anciens députés réélus, il y a Wivine Moleka, Jacques Joly et Patrick Muyaya. Délice Sanga, Léon Mondolé et Juvenal Munubo sont parmi les députés ayant perdu leur siège. Sur les 80% des nouveaux députés, il faut noter plusieurs membres du gouvernement, dont Akasia Mandubola, Antoinette Samba et Nicolas Kazadi. Des anciens sénateurs comme plusieurs membres du bureau et Augustin Matatamponi, des membres des institutions provinciales comme la gouverneure Fifi Masuka de Lualaba. Signalons enfin que certains députés du FCC comme Geneviève Inagosi et Célestin Mbouyou ont été réélus sous une autre casquette.
Merci beaucoup Michel Kifindangoy. Gatien de Saint-Nicolas Irachan, on va commencer avec vous. Hein. Vous êtes député national élu de la ville de Bounia en Ituri, cadre d'Ensemble pour la République, parti politique du candidat Moïse Katumbi. On rappelle ici que vous êtes parmi les députés réélus. Et comment vous réagissez face à cette nouvelle majorité parlementaire issue des élections législatives du 20 décembre dernier?
Je commence d'abord par saluer toute la population congolaise qui s'est déplacée massivement pour aller voter, croyant que on allait passer par de vraies élections. Malheureusement, c'est une population qui est dans la déception totale par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, je salue aussi mes électeurs qui sont dans la province d'Ituri, dans la ville de Bounia, qui se sont déplacés massivement pour aller me voter, bien que je suis réélu, mais pas avec les voix que j'étais en train de calculer. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, franchement, Kimate, avec tous les auditeurs qui nous suivent, c'est une déception totale pour les peuples congolais. Vous savez que ce sont des élections les plus honteuses, les plus scandaleuses même de l'histoire de la démocratie au monde, même en Afrique. Des élections qui ont été triquées, fraudées, chaotiques, avec des problèmes partout. Aujourd'hui, des élections qui sont à la cause même de la division du peuple congolais. Vous voyez un peu des gens qui protestent, qui sont frustrés, des feux partout qui sont allumés. Et donc, on ne peut pas évoluer dans un pays comme ça. Et pour revenir à votre question, aujourd'hui, on nous dit que la majorité présidentielle a près de 470 députés ou 480 députés à l'Assemblée nationale. Ce sont des choses difficiles à croire. On pouvait croire s'il y avait transparence dans les processus électoraux. Parce que vous savez que quand nous avons débattu sur la loi électorale, nous avons été quand même amenés à un petit espoir, pensant qu'il y aura quand même de la transparence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que quand on vous dit que les élections, on doit avoir des témoins qui doivent s'engager à observer les élections, il y a les témoins du parti, les témoins des regroupements politiques, il y a les témoins, les observateurs nationaux, les observateurs internationaux. Mais dès lors que les résultats de ces observations, les résultats des témoins paraissent contraires à la réalité qu'on a vécue, alors là, c'est un problème. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, on sait que tous les témoins, la plupart, surtout ceux de l'opposition, ont été exclus. Et là, il y a même des preuves, effectivement, qu'on n'a pas pu associer les témoins. Vous vous imaginez, normalement, le processus électoral exige à ce que chaque parti, chaque regroupement ait des témoins à l'intérieur de la salle, dans les bureaux de vote, comme on le dit. Mais malheureusement, vous trouverez que dans tous les centres, et ça c'est une injonction qui venait de Kinshasa, où on vous dit, bon, comme il y a beaucoup de témoins, on a besoin que de 5 témoins qui doivent faire des rotations chaque fois dans une salle. Et même les 5 qui étaient pris, donc les 5 témoins qui étaient considérés, souvent n'étaient pas de l'opposition. Et donc on a fait en sorte que le processus est devenu opaque et n'a pas pu laisser aux gens cette façon de croire encore à ces élections. Ça, c'est la première chose. Nous avons malheureusement des observateurs qui étaient associés, mais qui ne pouvaient pas juridiquement prester donc comme des témoins. Et donc, parfois, les observations ne peuvent pas influencer les résultats de vote. Malheureusement, des témoins qui n'ont pas pu être associés même pendant les décomptes des voix, parce que la plupart étaient exclus, et des témoins qui n'ont pas pu recevoir des PV. On les a roulés, on les a parfois remis des fiches de résultats qui étaient différents des vrais procès-verbaux. Et il y a des gens qui nous suivent qui savaient que les procès-verbaux, il y avait des marquages avec des dièses, avec des symboles qui ne permettaient pas à ce qu'on puisse tricher. Et donc ces procès-verbaux, parfois on les remettait à moins de 5% pour bloquer effectivement les candidats à ne pas pouvoir faire l'inventaire de leur voix. Et donc vous avez une élection où on bloque toutes les procédures, les processus qui pouvaient amener de la crédibilité. Et donc, à la fin des comptes, on n'avait rien à espérer. Malheureusement, ce qui est extrêmement grave, vous avez des élections qui vont aller à 6 jours et des élections qui n'ont pas pu aider le peuple congolais. Donc, on ne va pas revenir sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soulevé ça. Mais ce qui est vrai, si on a aujourd'hui un nombre de plus de 450 députés à l'Assemblée nationale, la procédure
amenant à ce qu'on a ici député, ne convainc pas. Donc c'est tout pour persister tout au long de la législature pendant 5 ans, parce qu'on ne croit pas à ces élections,
honorable,
on ne croit pas à ce processus qui a amené les gens à pouvoir avoir ces nombres de députés majoritaires.
Voilà, un autre fait qui est constaté, n'est-ce pas, et par rapport aux résultats qui ont été publiés récemment par l'Assemblée, plutôt par la CENI, c'est que en dépit de la campagne battue par vous de l'opposition, et vous n'avez qu'une vingtaine de sièges, et selon certains experts, cela pourrait être dû au fait que l'opposition n'a pas été en mesure, n'est-ce pas, de se coaliser autour d'un candidat commun. Et est-ce que vous partagez ce point de vue ou vous attribuez plutôt ces mêmes des résultats au caractère opaque de ces processus, comme vous venez de le dire?
Non. Il faut pas qu'on vous donne des discours, qu'on nous dise des discours qui sont contraires. Dès lors, je l'ai dit, que déjà on a imposé ici ce qui est opaque, dès lors qu'on a attrapé beaucoup de gens avec des machines en train de voter à la maison, tout devrait être remis à zéro, parce que là c'est un processus frauduleux. Donc aujourd'hui on ne peut pas expliquer que l'opposition puisse avoir 18 personnes assemblées pour 18, donc moins de 30 personnes à l'Assemblée nationale. C'est injustifié du fait tout simplement que la procédure que nous avons vue et que tous les Congolais, le monde entier a vu, ne donnait pas favori l'opposition, parce que vous avez la majorité qui est en train de voter dans la maison, la majorité qui va faire le bourrage des urnes, la majorité qui faisait des trucages. Donc on ne pouvait pas avoir une opposition qui n'a que les discours, qui n'a que sa vraie population, ses vrais électeurs pour élire et pouvoir compétir à cette majorité fabriquée et qui est une fraude. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on puisse en arriver là. Mais le mal est qu'aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui est déséquilibrée, et je vous dis que les conséquences, peut-être qu'elles peuvent se réjouir, mais les conséquences seront sur la communauté congolaise, sur les Congolais, tout au long de ces 5 ans. Et rassurez-vous que rien ne marchera, parce qu'on a déjà une assemblée qui est inféodée par une majorité frauduleuse et qui ne sera pas à mesure de pouvoir produire des bénéfices pour le peuple. Donc il n'y aura pas de débat. Déjà l'année passée, on avait des problèmes avec les débats, et cette fois-ci, on sera complètement anéanti, et donc il y aura la loi, les rapports de force de la majorité sur l'opposition, et donc il n'y aura pas de débat, parce que les gens, ils voient les débats dans un seul sens. On oublie que les débats apportent des lumières pour que les choses soient bien faites. On pense que plutôt les débats, c'est pour freiner l'élan démocratique ou pour freiner les pouvoirs en place. Non. Donc, on va avoir des difficultés, et je vous dis que cette législature de 2024 sera encore pire que ce que nous avons vécu en 2018.
Oui, Ensemble pour la République, hein, votre parti politique exige l'annulation pure et simple, n'est-ce pas, de ces élections. Maintenant que vous avez des élus au sein de cette nouvelle Assemblée nationale, vous-même vous avez été réélu, allez-vous siéger ou c'est plutôt le boycott pour lequel vous optez?
Non, il faut faire la part des choses, parce que vous savez que quand il y a un travail qui est mal fait, ce que nous recommandons normalement, c'est l'annulation pure et simple, parce que quand vous suivez un peu les discours du président Tshisekedi, lui-même Il croit être ici en dehors du fraude. Mais il voit lui-même qu'il y a eu beaucoup de fraudeurs. Et la plupart des gens qui ont fraudé avec des machines étaient de l'Union sacrée. Ça veut dire que ces voix étaient associées aussi au président. Et donc, pour faire une confiance et restaurer donc la confiance du peuple congolais et de ceux-là qui sont des partisans de l'opposition et de ceux-là qui sont partisans de la majorité, on devait tout simplement reprendre les processus de zéro afin qu'il y ait confiance. Parce que les pays, on les gère dans la confiance. Dans un système démocratique, il ne faut pas gérer par défi. Si vous gouvernez par défi, vous allez créer des ruptures. On peut célébrer aujourd'hui, mais la conséquence, elle sera grave dans les jours à venir. Donc,
merci.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui disent que non, c'est parce que la majorité n'était pas réunie. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un faux fuyant.
Merci.
En fait, quand vous savez que les élections sont sociologiques, quand vous avez des endroits où on battait campagne et qu'on devrait élire des gens, ou en tout cas, ça n'a rien à voir avec une majorité qui est divisée ou soit parti majorité qui n'avait pas un candidat commun. Je ne suis pas pour.
Merci. Toumba Tchabola Bintou, député national de la législature 2018-2023 et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous étiez chargé, n'est-ce pas, de la campagne du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, dans les territoires des Katanga, province du Kasaï oriental. Et comment vous vous expliquez cette écrasante majorité obtenue par l'Union sacrée de la nation?
Merci beaucoup, monsieur. Nous tenons d'abord à saluer nos compatriotes de l'ensemble de la République et particulièrement ceux du territoire de Katanga, de la province du Kasaï oriental, où nous avons eu à battre campagne pour notre candidat, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, qui a été élu avec plus de 73,47%. Confirmé par la Cour constitutionnelle après les résultats provisoires de 73,34%. Le territoire de Katanga avait élu le chef de l'État, mon candidat, avec 99,34%. Donc, nous nous félicitons du travail bien fait. Bon, par rapport à votre question, le problème, c'est que nos amis de l'opposition et notre collègue Irachal, que je salue en passant, n'avaient pas préparé les élections. Ils avaient préparé la contestation. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on aille aux élections, l'opposition n'était pas dans la logique d'aller battre campagne pour avoir des sièges ou bien pour gagner les élections. C'était juste, ils sont allés avec l'esprit de allons-y, un pas dedans, un pas dehors. Et c'est ce qui ne les a pas permis d'aller de l'avant. C'est tout à fait normal ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Remarquez que on ici l'ensemble de la République, la République du Congo a 26 provinces. Les candidats de notre collègue Irachan a bâti campagne dans combien de provinces? S'il faut évaluer, ça fait près entre 10 et 15 provinces là où il est passé. Mais dans les 10 autres provinces là, comment on pouvait élire quelqu'un qui n'y a jamais été? Là où on ne retrouve même pas son drapeau, on ne retrouve même pas des effigies, même pas ses candidats ne sont pas venus battre la campagne. Partout où nous étions, nous avons vu que l'opposition n'avait pas préparé les élections, l'opposition préparait par quoi de la contestation.
Ok, l'opposition n'a pas préparé les élections, et là était plutôt préparée pour les contestations, mais vous avez suivi le député Irachan qui a évoqué un certain nombre d'effets, des faits qui ont été relevés, n'est-ce pas, par les observateurs qui étaient sur le terrain, notamment les bourrages d'urnes, les machines, de nombreuses machines qui se sont retrouvées entre les mains de certains individus, et l'opacité dans les processus, notamment en ce qui concerne les calculs des seuils d'éligibilité. Et cet aspect-là, vous ne le prenez pas en compte?
Je comprends. Vous savez, nous avons eu à observer les élections dans notre pays. Nous sommes au quatrième cycle électoral. Nous avons vu les élections 2006, 2011, 2018, 2023. Dans chaque élection, il y avait toujours des problèmes. Si je prends les élections de 2006, où celui qui était considéré comme élu était Jean-Pierre Bemba, et il y a eu Joseph Kabila qui a été programmé. Vous savez comment les élections se sont terminées? Il y a eu la guerre dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Langombe là-bas. Et Jean-Pierre Bemba a été exfiltré pour aller à l'étranger, où il est revenu après que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, soit rentré au pouvoir. Dans soi, il a gagné les élections de 2018. Vous connaissez les conclusions des élections de 2006. Si vous allez en 2011, après les élections de 2011, il y a eu 3 mois de contestation. Nous avons assisté à des carnages, à des tueries dans la ville de Kinshasa. Les élections étaient programmées, et les résultats étaient programmés dans un char de combat. En 2006, c'était la négociation de la MONUSCO avec le candidat Jean-Pierre Bemba pour le permettre à ce qu'on programme les élections. En 2011, et on a programmé les élections dans les chars de combat par le président de l'époque de la commission électorale indépendante. Vous allez en 2018, on a programmé les élections, c'est le président Félix qui avait gagné les élections. Vous avez vu que quand quelqu'un décide qui a gagné les élections, que la population a accepté, vous avez vu qu'il n'y aura pas, il n'y a pas eu de troubles. Alors, 2023, après la programmation des résultats, vous avez vu qu'il y avait la joie partout à travers la République. Moi-même, j'étais encore dans la ville de Mbujimayi,
j'étais dans la province du Gâteau-Oriental, je suis allé presque partout pour voir qu'il y avait l'ambiance qui régnait partout. Partout à travers la République, les gens ont festoyé. Donc, cette publication a eu lieu la journée. N'en déplaise à tout ce qui peut y avoir comme des petits problèmes. Il y a eu des petits problèmes.
Et donc, Bintou Tchabola, vous banalisez les irrégularités qui ont été relevées jusque-là. Vous le banalisez, là, hein. C'est des incidents banals, minimes, qu'on ne doit pas relever.
Ce sont des faits mineurs qui n'ont aucune conséquence sur la globalité. Regardez que le président Félix a eu 13 500 000 quelque chose de voix. Le candidat de mon collègue a eu 3 millions. Même s'il faut enlever les voix là, quand on a enlevé, on a supprimé les élections à des endroits où il y avait des petits problèmes. Mais ça ne peut pas avoir de l'incidence sur base de ce qui a été fait. Regardez, vous avez suivi l'interview de Colette Brackman. Elle était ici après les élections. Elle est partie au soir du 20 décembre 2023. Elle vous a dit que là, vous prenez seulement l'interview de vous, vous verrez que les observateurs, même tous ceux qui étaient là, ça, même si vous prenez les élections, la conclusion des observateurs nationaux, de Senko, et puis etc. Il y a un seul candidat qui a eu tout presque l'ensemble des voix. Donc les Congolais ont voté pour
celui-là. Oui, mais dans la pratique, serez-vous à l'aise de siéger dans un hémicycle, n'est-ce pas, où l'opposition est presque inexistante?
Non, l'opposition n'est pas existante. Elle n'est pas inexistante. Vous avez parlé de plus de 20 voire 30 sièges. Vous savez qu'il y a plusieurs partis de l'opposition qui peuvent être présentés. Si la table a eu à peu près 18 élus, il faut savoir que l'ensemble n'avait pas présenté ne s'était pas présenté seulement qu'ensemble. Il y a aussi Avançon qui fait partie de l'ensemble. Il y a encore d'autres mouvements politiques. Il y en a 3, 4, 5. On peut retrouver un grand nombre. Ce n'est pas mauvais d'avoir des opposants. Mais c'est seulement que notre opposition à nous ne préparait pas les élections. Comme ils n'avaient pas préparé les élections, voilà pourquoi les conséquences, c'est ce qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale, il y aura toujours l'opposition.
Voilà, avec cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que la nouvelle Assemblée nationale ne va-t-elle pas devenir une caisse de résonance, n'est-ce pas, du pouvoir comme les redoutent certains analystes?
Non, il ne faut pas présager ce qui n'est pas encore arrivé. Le travail de... Il faut, puisque les gens qui parlent des choses, il faut d'abord savoir quel est le rôle des députés. Est-ce que le rôle des députés, est-ce que ceux qui seront là vont jouer le rôle réellement des députés? Oui, quand ils vont, on va les juger au bout de 5 ans. Ce n'est pas... Tant qu'ils ne sont pas encore installés, on ne les a pas encore, ils n'ont pas encore travaillé. Comment vous voulez juger quelqu'un qui n'a pas encore travaillé? Donnons le temps au temps. Quelques gens travaillent, c'est au bout de 5 ans consonnel qu'ils ont bien travaillé, ils ont mal travaillé. Mais vous savez, parce que quand quelqu'un est au niveau en dehors de l'Assemblée nationale, il y a des choses que la personne pense, que ce qui se passe là-bas, quand lui sera là, il va tout arranger. Alors, il y a des réalités quand vous êtes sur le terrain pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, il y a l'Assemblée nationale qui fera son travail de légiférer, de contrôler le gouvernement. J'espère que le travail va se faire correctement. Il y aura aussi le contrôle citoyen. Et j'espère que tout ira pour le mieux. Il ne faut pas tellement commencer à juger une Assemblée nationale qui n'a pas encore travaillé, qui n'a pas encore mis en place. Ça, c'est une justification.
Oui, l'hémicycle est renouvelé à près de 80%. Vous êtes parmi les députés qui n'ont pas été réélus. Vous considérez cela comme une sanction négative de la population à votre endroit, vous députés qui avez siégé dans l'ancienne Assemblée nationale, ou c'est plutôt d'autres facteurs qui peuvent expliquer les renouvellements de cette nouvelle de l'actuelle Assemblée nationale?
Non, il faut savoir que généralement, sur le plan historique, la vie parlementaire a été toujours fait ainsi. Les députés de 2006, c'est presque 20% qui étaient revenus en 2011. Les députés de 2011, c'est 20% qui étaient revenus en 2018. Les 2018, c'est presque 20% qui revient en 2023. C'est tout à fait normal, c'est la vie parlementaire. Mais le problème de tout un chacun, c'est ce n'est pas à la radio qu'on va confirmer oui ou non qu'on a bien travaillé. Alors, le plus important, il faut attendre que la Cour constitutionnelle d'abord arrive à confirmer la liste définitive. À ce moment-là, on saura qui sont réellement maintenus, qui n'a pas été élu, qui est réellement ou qui a été élu d'une autre manière. Donc, nous n'allons pas parler de notre vie privée, si les médias, nous parlons de la globalité.
Merci, merci. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, en sigle. Vous, membres de la société civile, comment vous analysez cette nouvelle configuration à l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup. La nouvelle, c'était prévisible, mais tout de même, c'est étonnant et interpellateur. Prévisible dans le sens que le contexte politique qui a prévalu avant les élections, pendant les élections et après les élections a démontré clairement que la majorité au pouvoir rappellera tout, c'est-à-dire rappellera la présidence de la République, rappellera tout le poste au niveau des élections législatives nationales. Et peut-être aussi, ça ne sera pas non plus une surprise au niveau des élections provinciales, au niveau sénatorial. Pourquoi je l'ai dit? Puisque le rapport des forces n'a pas été le même. C'est-à-dire, pendant la campagne, on a vu que l'opposition a eu du mal. L'opposition a eu du mal à se déployer dans tous les pays. L'opposition a été empêchée d'arriver... de battre campagne correctement dans certaines provinces comme dans les grandes capitales. On a vu que les candidats de l'opposition à la présidentielle, beaucoup de candidats n'ont pas pu être au passage. On a vu également que pendant la campagne a été mauvaise, que ce n'était pas assis sur un débat démocratique, mais plutôt sur des attaques identitaires, sur des injures, tout ça. On a vu aussi que les candidats du pouvoir, si je puis me permettre d'utiliser ce terme-là, par rapport à ceux de l'opposition, jouissaient de tous les moyens, utilisaient les moyens de l'État pour faire campagne. On a vu comment au niveau présidentiel, on a vu comment au niveau des élections législatives nationales, législatives provinciales, comment les candidats du pouvoir avaient le moyen. Ils étaient dans les affaires et ils utilisaient même le moyen de l'État. On a vu comment la presse officielle, les médias officiels n'ont pas accédé, n'ont pas permis à plusieurs candidats de l'opposition d'avoir accès. Nous avons vu comment la campagne, on a utilisé l'argent au niveau de la campagne pour dissuader les électeurs, que le pouvoir avait tout le moyen. Nous avons vu dans certains coins, donc le moyen était aussi un élément de réussite. Nous avons vu aussi que au cours de ces élections, on dirait que tous les moyens étaient permis. Et les moyens légaux et les moyens illégaux, tout était permis et les candidats du pouvoir avaient plus de moyens d'utiliser, d'intimider, de restreindre les libertés des autres.
Voilà, donc vous dites que c'est prévisible, mais vous avez évoqué aussi le fait que c'est étonnant et interpellateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que même dans les villes ou dans les provinces supposées acquises déjà à l'opposition, mais curieusement, même là, le nombre de députés élus du pouvoir dépasse celui de l'opposition. Je donne l'exemple du Grand Katanga. Grand Katanga, en général, du point de vue populaire, était acquis à l'opposition. C'était le bastion de l'opposition. Donc, logiquement, dans les grands Katanga devaient donner plus de candidats, plus d'électeurs, de députés nationaux de l'opposition. Curieusement, même si on prend les grands Katanga, l'opposition a été battue. Alors que sur le bastion de l'opposition, je m'en vais à Kinshasa. Kinshasa a la dynamique à la fois d'être une ville cosmopolite, une ville difficile à acquérir totalement politiquement, mais on voyait que Kinshasa pouvait donner peut-être 50-50, donc le député de l'opposition et le député de la majorité. Pour où si la majorité pouvait l'emmener
par rapport à l'opposition, ça devait être un écart raisonnable. Même à Kinshasa, le pouvoir a battu l'opposition. Alors que c'est une ville qui n'est pas totalement acquise au pouvoir. C'est une ville qui a une dynamique aussi de contestation. Et notre exemple, c'est le Bandundu. Le grand Bandundu avec le candidat à la présidentielle qui était de Bandundu, il y a certaines villes de Bandundu qui devaient donner plus de candidats ou plus de députés à l'opposition. Mais curieusement, là aussi, c'est ça qui étonne. Ce qui étonne aussi, c'est tout ce qui a été dit ici, c'est que la manière de rendre le résultat, par l'organe habilité à le faire, la CENI, n'a pas été non plus trop transparente. Parce qu'on a publié d'abord la liste des invalidés avant la proclamation des résultats. Après, quand on a proclamé, avant qu'on proclame, on a dit la deuxième liste des invalidés va venir. Donc, le processus n'a pas été aussi un processus, même au niveau de la publication des résultats, même au niveau de l'acceptation, mais le processus n'est pas trop respirant. Le processus, ce qui étonne, c'est que même l'acceptation, la compréhension des notions de seuil, seuil de recevabilité, seuil d'éligibilité, beaucoup de candidats, la société congolaise dans son ensemble, inclut la société politique, ne comprend pas très bien comment la CENI est arrivée à ça.
Et le caractère interpellateur de ces élections, c'est quoi?
Le caractère interpellateur de ces élections, c'est que un, c'est le système que nous voulons. Nous avons vu que le président de la République chantait bien avant qu'il faut qu'on lui donne la majorité qu'il veut. Donc nous avons un système semi-présidentiel. C'est-à-dire le président de la République est élu. Nous, au niveau des élections provinciales, nous avons un système proportionnel à des listes et nous avons un problème de seuil de représentativité. Alors, ce qui interpelle, c'est quoi? Est-ce que nous voulons un système présidentiel au Congo? Où nous voulons un système parlementaire à domination, puisque le système que nous avons dans notre constitution, c'est un système semi-parlementaire. C'est-à-dire qu'il combine à la fois les caractères présidentiels et les caractères parlementaires. Donc au niveau du gouvernement, le chef du gouvernement doit venir de la majorité. Alors il y a l'interpellation, c'est sur le système. Le système politique que nous voulons, le système des élections à mettre en place. Puisque beaucoup de gens ne comprennent pas que certains candidats qui ont eu, par exemple, plus de voix, mais qui, avec le problème des listes et de seuil, n'ont pas été proclamés élus. Donc le système électoral au niveau des élections législatives pose problème au Congo. Il faut donc que là, les gens comprennent et choisissent un système qui soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus compréhensible que le système actuel qui pose beaucoup d'interpellations. Il y a des gens, même des députés, des candidats qui étaient députés, qui ne comprennent pas le seuil d'éligibilité, comment les calculs ont été faits, comment ceux qui apparemment avaient plus de voix, après on est intervenu dans le système de seuil, comment ils ne se retrouvent pas. Il y a ces problèmes d'explication, il y a ces problèmes d'appropriation du système électoral congolais en général. Il y a ce système aussi de, ce qui interpelle, c'est aussi le système de communication des résultats. Donc, le système de suivi du processus électoral dans son ensemble pour assurer plus de transparence et plus de légitimité. Aujourd'hui, il y a un problème qui va se poser à travers cette interpellation-là. On a un système qui donne, puisqu'il n'a pas été transparent quelque part, il n'a pas été compris très bien quelque part, qui donne une majorité écrasante à un groupe politique qui s'appelle le pouvoir. Mais aujourd'hui, le Parlement, comment va-t-il fonctionner?
Oui, Dismas.
Ça sera légitime. Beaucoup de Congolais vont se retrouver dans ce système.
Dismas, donc, oui. Vous voulez dire que si cette majorité, n'est-ce pas, écrasante, peut politiquement arranger les pouvoirs en place, ça peut avoir des implications sur certaines choses?
Oui, absolument. La première difficulté, c'est que les pouvoirs, on risque de confondre la majorité politique avec la légitimité populaire. Donc, on a la majorité à l'Assemblée nationale, mais on n'a pas la légitimité. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment accepté par la population. Ça va interpeller. C'est que, on peut croire, si vraiment le système est démocratique, si le système électoral était beaucoup plus transparent, Donc, on serait à un niveau d'établir une équation, la majorité au niveau du Parlement égale la majorité du peuple, la légitimité populaire. Or, avec ce que nous avons vécu à travers ces élections, qu'aujourd'hui, le président de la République a la majorité écrasante au Parlement, à l'Assemblée nationale plus particulièrement, mais n'aura pas peut-être la majorité populaire. Donc, il y aura des contestations, le régime, même à travers ces élections, il risque d'être douteux au niveau des populations. À ce moment-là, on va dire, mais nous sommes dans quel système? Parce que tout le système que nous avons électoral, tout le système politique doit refléter donc la volonté populaire. Si les populations ne se retrouvent pas dans cette majorité-là, qui devient comme une majorité, il y aura donc un décalage entre la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité dans la population, donc, que nous appelons la légitimité.
Voilà, et donc cela pourrait avoir des implications sur ce qu'on appelle la cohésion nationale.
Cela aura aussi l'implication sur la cohésion nationale. Pourquoi? Puisque les gens risquent de rejeter, de dire qu'on ne se reconnaît pas dans cette majorité-là. Puisqu'on va dire, nous avons élu X, et la CENI a proclamé tel, et nous avons tel député là, mais nous ne nous reconnaissons pas dans ces députés là. Il y aura un rejet des institutions. Les gens ne vont plus se reconnaître dans ces institutions. Il y aura bien une crise de légitimité. Donc, crise de légitimité populaire, au-delà de la légalité. Sur le plan de la légalité, on pourrait dire que c'est bon. Mais sur le plan de la légitimité politique, merci, et sur le plan de la légitimité populaire, de l'acceptation des institutions par la population, quand les populations doutent de ce qui s'est passé pour X raisons, que peut-être ça n'a pas été transparent, peut-être qu'on n'a pas bien compris le système, merci, puisqu'il y a aussi cette interrogation-là. C'est pour dire l'interpellation, c'est de dire aujourd'hui quel système démocratique conviendrait le mieux à la RDC, qui serait le mieux approprié par les populations congolaises. Ces élections que nous connaissons jettent les bases de cette réflexion-là. Puisque quand, bien sûr, quelqu'un s'est dit « j'ai été élu », mais vous avez été élu par des populations d'un coin, mais les populations vous le connaissent pas. Mais vous êtes proclamé élu, vous êtes dans une
merci, position Marc, on a compris.
Techniquement ou politiquement contrôlée. Voilà.
On a compris. Irakian Gatien de Saint-Nicolas, vous allez réagir à la réflexion des auditeurs qui sont en train de nous appeler. Hein. Ici, c'est l'auditeur qui nous appelle depuis Kabaré, au sud Kivu.
Je suis Madeleine Kakumbo-Jules, activiste du Forum des nationalistes depuis Kavuna dans le territoire de Kabaré, au sud Kivu. Je pense que la configuration de la nouvelle Assemblée nationale est bien. Du fait qu'il y a une diversité de représentativité à tous les niveaux. Les femmes sont bel et bien représentées malgré le nombre réduit. L'opposition également est aussi bien représentée malgré sa minorité. À ce qui concerne l'Union sacrée, quant à elle, devrait obtenir cette majorité parlementaire. Du fait qu'ils se sont mis ensemble pour coaliser ses forces pour obtenir ce nombre. Dans la même diversité, les jeunes sont bien représentés sans oublier les nouveaux et les anciens élus. Je pense que cette fois-ci, l'Union sacrée ne va plus se plaindre qu'elle n'a pas bien entendu la majorité parlementaire, c'est pourquoi elle est bloquée. Donc, elle va travailler pour l'intérêt de la population congolaise.
Gracias de Saint-Nicolas Irachan, votre réaction?
Merci, je salue tous les auditeurs du site Kivu, où j'ai beaucoup œuvré en faveur des ensembles de la République, et notamment les gens de Kavumu. En fait, l'auditeur, il a tort de dire ce qu'il est en train d'affirmer là. Parce que d'abord, je vous dis, l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle la représentation du peuple. Je vous donne un petit exemple qui se passe chez moi à Ituri, par exemple, où dans un territoire de Irumu, on retrouve par exemple les noms d'un candidat et toute la population crie directement que nous ne connaissons pas ces candidats, on ne sait pas comment il est passé. Ça veut dire que ce messier-là qui est élu, quand il va parler au nom de cette population à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, personne ne va les reconnaître. Ça, ce sont des questions graves. Même Dispas venait d'évoquer cette question
des représentatifs. C'est très important. Aujourd'hui, la majorité peut se frotter les mains, peut bien jubiler, dire que voilà, nous avons la majorité. Mais attention, nous avons déchiré le pays et nous avons divisé les Congolais. Parce que le système de démocratie, c'est un système basé sur la confiance et basé sur la majorité. Donc, autant des gens qui vont contester, qui ne seront pas contents, autant le pouvoir n'est pas accepté. Il faudra qu'on vérifie, parce que moi, je vis dans les réseaux sociaux, par exemple, on nous dit qu'il y a 215 personnes ici, dans la même communauté de Kassai. Je ne sais pas, il faut vérifier. Ce sont des choses, si jamais ça s'avérait vrai, ça serait extrêmement grave, parce que quand déjà beaucoup de gens ont fait le décompte, peut-être qu'il y a des choses à pouvoir vérifier. Quand on dit que le président il est élu avec 73,13%, quand on sait qu'il n'y a pas eu compilation de voix, moi je donne l'exemple de ma ville de Bounia où je suis élu, où j'ai mis les témoins partout. Je sais qu'on n'a pas fait la compilation, mais déjà Kinshasa avait annoncé des tendances, soit disant que le président a remporté les élections dans ma ville, et pourtant on n'a pas fait la compilation, et quand moi je vois les fiches des résultats, c'est Moïse Katumbi qui a gagné. Donc vous avez autant de personnes qui ne seront pas contents, comme l'a dit mon co-débatteur Dismas, qui vont dire non, cette affaire-là, nous, on ne se reconnaît pas dans ça. D'ailleurs, moi, chez moi, les 30, il y a eu plus de 10 000 personnes qui sont venues chez moi pour dire, mais nous, on apprend qu'on est en train maintenant de dire la tendance de Tshisekedi, et pourtant, ce n'est pas Tshisekedi. Nous, on ne l'a pas voté, et c'était plus de 10 000 personnes qui étaient venues subitement me voir à la maison. Et ça a fait sauf que l'armée qui est avec l'état de siège m'a pourchassé à travers toute la ville et a arrêté mes gardes. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une crise de confiance et il y a même un porte-parole.
Oui, quand vous parlez de 10 000 personnes, 10 000 personnes, ça représente quoi par rapport aux 18 millions de personnes qui se sont exprimées ces jours-là?
Attention, il ne faut pas minimiser ça, parce que quand vous avez beaucoup de gens qui accourent, parce que je vous donne d'abord un autre exemple. Quand on a proclamé le chef de l'État Tshisekedi, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'engouement dans la République, les gens n'étaient pas contents. Ce n'est pas un signe nul. Moi, on m'a proclamé député récemment ici. Les gens, dès directement après avoir écouté mon nom à 4h du matin, ils sont descendus de la rue.
Merci, et ça fait trois jours
depuis le dimanche. Ils sont en train de festoyer.
Merci.
Donc, je voulais dire qu'il ne faut pas jouer avec cette crise de légitimité parce que c'est très grave. Dès lors que le matériel électoral s'est retrouvé aux mains des individus, notamment la machine à côté, les bulletins et les enseignes, ne sait pas, on devait tout simplement annuler ces élections parce que ce n'est plus crédible en fait.
Merci, vous l'avez déjà dit. Toumba Chabola Bintou, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga au Kasaï Central.
Je suis William André, je vous appelle depuis Kananga, dans la province du Kasaï Central. Il n'y aura aucune leçon à tirer dans la mesure où cette configuration de l'actuelle Assemblée nationale ne pourra produire des résultats suivant les attentes du peuple. Les missions des députés nationaux sont bien connues, mais que fera donc un représentant, un contrôleur et législateur qu'un député national qui sera confronté à une union sacrée de la nation soudée comme un seul homme, prêt à défendre avec l'ongle engagé ses sociétaires? Le régime devra donc établir le véritable état des droits dans lequel le vrai contrôle parlementaire doit être de mise et la sanction valorisée. Ça veut dire qu'il ne faut pas ici qu'on puisse assister à un copinage entre l'exécutif et le parlementaire. Il faut qu'il y ait une véritable distinction dans la mesure où l'exécutif devra faire ce qui lui revient de droit et le parlementaire aussi ce qui lui revient de droit. Sinon, on va assister à une méconnaissance des rôles et le peuple ne saura pas avoir des produits qu'il est en train d'attendre juste après l'exécutif parlementaire.
Toumba Chabola, bientôt.
Merci beaucoup. Bon, je remercie mon frère William André de Kananga. Bon, ce qu'il dit, nous allons le vérifier dans les faits lorsque l'Assemblée nationale sera installée et qu'ils vont travailler pendant 2-3 ans. On saura s'ils vont dans le sens où ils pensent, ou ils iront dans le sens de travailler réellement pour l'intérêt de la République. À ce que je sache, je sais que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours prenez la démocratie et que chaque institution puisse jouer son rôle. Jamais il n'a interpellé dans le travail d'une institution. L'Assemblée nationale jouera son travail de légiférer et de contrôler le gouvernement. Le bureau qui sera mis en place, j'espère qu'il va faire le bureau facilitera aussi la tâche aux députés afin que le travail se fasse normalement. Et le gouvernement doit aussi répondre à l'ensemble des préoccupations des élus nationaux qui vont contrôler réellement le gouvernement. Donc nous ne pouvons pas juger ce que nous n'avons pas encore vu. Il faut attendre après 2-3 ans, on verra. Mais ce que nous devons retenir est que ça ne sera pas la même chose comme en 2019 ou 2018 ou après les élections. Les 6 premiers mois ou les deux premières années, les chefs de l'État étaient, les institutions étaient en train de bloquer l'institution présidente de la République. Nous travaillons aussi les ordonnances et les autres réflexes, ça ne sera pas la même chose. Ceux qui seront là vont réellement travailler pour l'intérêt de la République. Donc, et faire réellement le contrôle parlementaire et légiférer conformément aux lois de la République.
Merci.
C'est le plus important. Mais nous ne pouvons pas juger une institution qui n'a pas encore été mise en place, qui n'a pas encore travaillé. On ne peut pas les juger sur base de des histoires imaginaires.
Merci, Bintou Tchabola. Et Ntumba, Dismas Kitenge, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu.
Absent Kishengamungu Olivier, depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Au vu des résultats qui ont été publiés par la CENI, et qui dessinent une majorité écrasante de l'Union sacrée, où presque plus de 90% des députés sont issus de la famille présidentielle, ça peut-être qu'ils représentent une marge de manœuvre pour le président qui s'est élu de gouverner à sa façon. Toutefois, il faut noter que les contestations de l'opposition ne représentent absolument rien, ceci dans la mesure où le président n'aura pas besoin de désigner les formateurs pour la formation du gouvernement, comme c'était le cas dans le passé. Il sera tout simplement question de nommer le nouveau premier ministre au sein de la majorité qui se dessine déjà. Parlant de la crise, rappelons qu'elle est déjà là et il faut continuer à renforcer la cohésion nationale, parce que Corneille Nanga et sa suite qui occupent une partie de l'Est du pays précise dans une de leurs déclarations qu'ils ont pour mission de renverser le régime du président Tshisekedi. De l'autre côté, nous avons aussi l'opposition autour du président Kabila qui...
Oui, Dismas Kitenge.
Oui, effectivement, comme l'auditeur vient de dire, c'est une situation que le président de la République et le gouvernement devront gérer avec beaucoup plus de tact. Mais ils ne devront pas seulement se contenter de cette majorité qu'ils ont déjà au sein de l'Assemblée nationale, mais ils doivent de temps à autre aller au-delà, c'est-à-dire consulter les populations, essayer de sonder ce que les populations veulent, tenir compte de ça. Donc l'opposition ne serait pas seulement l'opposition qui est dans les institutions. On doit voir aussi tenir compte de la société civile. Ce que la société civile doit dire, comment la société civile doit réagir, mais aussi tirer les conséquences de ces élections. Que ces élections ont connu beaucoup de problèmes, que le président de la République et le gouvernement, puisque en fait le président et le gouvernement, c'est eux qui vont gérer les affaires de l'État dans les 5 ans qui viennent, donc doivent, mais pas seulement s'arrêter à ce que l'Assemblée nationale va dire, pour dire se contenter de cette majorité, mais aller au-delà, sonder les populations, être plus proche des populations, mais aussi essayer de faire participer les voix critiques, d'autres voix critiques, ça peut être de l'opposition qui n'est pas dans les affaires, et tenir compte même aussi des revendications de tous ceux qui critiquent ou de tous ceux qui suggèrent des choses. Donc c'est ça, ça sera beaucoup plus difficile.
Merci.
Il ne doit pas seulement se contenter de cette majorité, mais aller au-delà, mais aussi tenir compte des avis de toutes les populations pour améliorer les choses.
Merci Bintou Tumba Tchabola Bintou, député national de la législature de 2018-2023 et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous étiez chargé de la campagne du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, dans les territoires de Katanga, province du Kasaï oriental. Nous sommes en train de conclure. Et comment peut-on capitaliser, n'est-ce pas, cette nouvelle majorité parlementaire dans le sens, n'est-ce pas, de lui permettre de jouer correctement les rôles que le peuple attend d'elle?
Bon, l'élément le plus important, c'est que le chef de l'État va mettre en place, va réellement appliquer son programme des peuples d'abord, qui était notre projet de société, et on va préserver les acquis des cinq dernières années, et l'ensemble des projets qui ont été entamés. Et ce qui reste à faire, ça sera finalisé. Ça va aider surtout avec le projet de PDL 145 territoires. Ça permet à ce que chaque Congolais partout se trouve, qu'il puisse voir que le gouvernement est en train de travailler. Dans ce volet, il y a plusieurs
autres volets qui n'ont pas été abordés, qui ne sont pas encore réalisés, qui ne sont pas encore sur le terrain. Je voudrais que ces projets-là se réalisent. Par exemple, les volets de eau, volets route d'intérêt agricole et électricité rurale. En plus, d'autres projets nouveaux qui seront mis en place dans les nouveaux programmes du nouveau quinquennat. J'espère qu'il fera vraiment un bon travail, que ceux qui auront la chance de participer, d'être membres du gouvernement, qu'ils puissent aider réellement les chefs de l'État à atteindre, à permettre à ce que notre pays aille de l'avant, et surtout qu'il y ait la stabilité sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur le plan social, que la population puisse se réjouir à la fin du mandat, du deuxième mandat, que le peuple congolais, que chaque Congolais puisse applaudir. Voilà le plus important.
Merci.
Et que le Congo soit stable totalement, qu'on ne puisse plus revenir en arrière.
Merci. Gratien de Saint-Nicolas Iratian, député national élu de la ville de Bunia-Nitouri, cadre d'ensemble pour la République, parti politique du candidat Moïse Katumbi. Vous avez une vingtaine d'élus, de députés qui ont été déclarés par la CENI comme étant élus. Vous faites quoi? Quelle est l'option qui a été levée par les partis Ensemble pour la République? Vous siégez ou vous allez plutôt boycotter cette législature?
Bon, la politique des chaises vides ne paye pas. Et il faut aussi respecter la population qui nous a élus. Mais ce qui est vrai, il ne faut rien attendre de cette Assemblée nationale. La situation sera pire qu'en 2018. Déjà, en 2018, il y avait beaucoup de gens qui protestaient contre l'Assemblée nationale, soi-disant qu'elle est improductive. Donc cette fois-ci, cette crise va encore s'aggraver. Et il faut donc la résistance du peuple jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Et vous savez que la plupart des députés de l'Union sacrée aujourd'hui, qui sont nommés, moi je les dirais, quand ils vont commencer à passer dans les quartiers, on va chaque fois les pointer pour dire voilà les fraudeurs, les tricheurs. Donc il n'y aura pas de confiance. Aujourd'hui, vous avez tous les partisans de Katumbi qui sont plus de la moitié des électeurs congolais qui sont aujourd'hui isolés, frustrés. Vous avez les gens d'Engovila frustrés, les gens de Bemba frustrés. Et il y a fissure même au sein de la classe politique. Et quand vous avez une rébellion de part du côté est de la RDC, avec tous les groupes armés qui dépassent, descendent dans les pays, quand vous avez maintenant cette députation provinciale qui sera proclamée avec des fissures où il y aura des manifestations, les conseillers municipaux vont aussi manifester, il y aura fissures. Donc on sera face à un pays divisé totalement où il n'y aura pas de confiance.
Merci.
Donc si Tshisekedi était quand même à sa place comme chef de l'État, il devrait repenser et parler avec toute la classe politique pour qu'on refasse bien les choses. C'est notre pays, nous devons les protéger, nous devons aller à l'avant dans l'ordre.
Merci Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et quand vous voyez cette majorité écrasante, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'au sein de cette même majorité écrasante, puisse se créer des différents courants qui peuvent fragiliser cette majorité et la rendre même volatile? On se rappelle ce qui s'est passé en 2021, où en un clin d'œil, on a vu plus de 250 députés de l'ex-FDH, du FCC qui avait basculé, n'est-ce pas, dans la nouvelle majorité. Est-ce qu'on ne peut pas redouter cette éventualité?
Donc, exact. Il y a beaucoup de risques. Cette majorité-là peut éclater puisqu'il peut y avoir des frustrations, surtout au moment du pouvoir. Donc, le président de la République et les gouvernements qui seront mis en place doivent faire preuve de beaucoup d'ouverture, beaucoup d'humilité d'abord. L'humilité n'est pas considérer cette majorité comme un élément de victoire, un élément d'orgueil pour écraser le Congo. Aujourd'hui, dans les contextes politiques, avoir une assemblée où l'opposition représente moins d'un pour cent n'est pas en tout cas conforme à la réalité des choses. Donc, toutes les institutions, en tenant compte du président, doivent avoir l'esprit d'ouverture, l'esprit d'imagination, l'esprit de créativité, parce qu'à chaque situation, il faut aller au-delà de ce qui est, et l'esprit de souplesse, et l'esprit d'inclusivité, aller vers même non pas théoriquement ou politiquement gagné, le consulter, tenir compte de ce qu'ils disent, et l'esprit de se faire bien conseillé, puisqu'en fait on connaît la classe politique congolaise, elle est
une classe qui change, hein, suivant les intérêts, puisqu'il y aura des frustrations. Tout le monde ne participe pas. Aujourd'hui, on a les députés, mais les députés, on connaît les députés congolais nationaux. Ils vont à l'Assemblée pour avoir des postes politiques au sein du gouvernement, au sein des entreprises. Leurs premières frustrations arriveront à ces niveaux-là. Nombreux ne voudront pas rester comme députés nationaux. Même si on prendra un bon nombre, il y aura des frustrations. Il y aura aussi des frustrations au niveau de... Il y a déjà des frustrations, il y en aura. Alors là, le président de la République, grandes institutions, doivent faire preuve des qualités que je venais de mentionner pour faire marcher bien la République en tenant compte que les élections, c'est une étape, mais la réalité de tous les jours l'amèneront à aller au-delà de ce qu'il a dit à travers les élections pour inclure plus de gens, écouter et avec humilité, je pense qu'ils pourront sortir de cette, des différents pièges, des différents scénarios politiques qui peuvent s'adresser.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Dismas Kitenge, Gracien de Saint-Nicolas, Irachan et Tumba, Tchabola, Bintou, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous tous, auditeurs et internautes, de nous avoir accepté, n'est-ce pas, de nous suivre. Et merci aussi à Dona Madimba qui a réalisé l'émission et à Polydor Basunga qui était à la technique avec la participation de Clément Chimanga, Jonathan Fouanani et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Semujangwe à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capi.